Radio de Poteau Carré, une émission radio de Poteau Carré entièrement consacrée, vous vous en doutez bien, à la relégation, on peut dire lamentable relégation des Verts qui se destinait depuis un bon moment et qui s'est concrétisée samedi dernier avec une équipe très loin d'être à la hauteur de son public. Alors, avec moi ce soir pour débriefer cette saison. Alors, on verra si on le fait en une seule émission ou en plusieurs émissions, mais on va au moins commencer ce soir. Verivel, évidemment, toujours à la technique, l'indispensable. Salut Verivel.
Salut à tous, avec un petit peu de jonglage aujourd'hui parce qu'on change de technologie, alors c'est un petit
Ouais,
peu
on change de
compliqué.
dispositif, donc s'il y a des petits soucis, j'espère que vous aurez la gentillesse de nous excuser. Également avec nous ce soir, pilier de l'émission, s'il en est par hasard, la plume de Poteau Carré, la plus belle plume de Poteau Carré. Salut par hasard.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Et puis deux grands habitués qui eux aussi maintenant, on peut dire, font office de pilier. Pat, salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Et puis, Dissident, qui est encore plus ancien, un plus vieux pilier encore que Pat. Salut, Dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous.
Et donc, nous voilà pour eh bien, partager notre tristesse ensemble et puis essayer de comprendre un petit peu, comprendre ce qui par moments paraît incompréhensible. On aura tous l'occasion de s'exprimer sur le sujet et puis on compte sur vous pour également intervenir sur le chat YouTube ou sur le forum. On va essayer d'être attentif à tout ça et c'est l'occasion de redire qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup vos interventions. Alors, on va parler de, on va dire des trois domaines sur lesquels on peut s'interroger au sein du club, les joueurs, le staff technique et la direction. On va essayer d'analyser un petit peu ça, voir ce qui a gardé, chercher des responsabilités peut-être, et puis envisager des perspectives aussi. Avant ça, un petit mot sur le match face à Toulouse, match douloureux que j'ai vécu comme un symbole de notre saison, avec un stade en fusion, un public exceptionnel, un enjeu très fort et une équipe pas du tout à la hauteur. Par hasard, on commence avec toi. Est-ce que de ce que je viens de dire, c'est comme ça que tu as vécu les choses?
Ouais, hélas, oui, et un peu comme toi, avec l'idée de d'une certaine continuité, d'une certaine logique par rapport à toutes les insuffisances qu'on avait pu voir au cours de la saison et seulement entrecoupées de temps en temps par quelques fulgurances. Donc, malheureusement, l'épilogue était aussi triste qu'attendu et que prévisible, ce qui a peut-être atténué un peu d'ailleurs la colère du public en général, la mienne en particulier.
Oui, je crois que c'est un élément important, ça. J'ai le sentiment que parmi les supporters stéphanois, il y avait un constat que cette équipe n'était pas à la hauteur. On y reviendra quand même, parce que je pense qu'il y a des choses à dire, mais que cette équipe, globalement, n'était pas à la hauteur. Et on allait un peu à chaque match comme on va à l'abattoir. Sauf que là, il y avait un petit espoir quand même, un petit espoir. Pat, tu étais à Geoffroy. Comment tu as vécu ce que moi, je qualifie de hiatus entre ce qu'on pouvait attendre, je répète, compte tenu de l'enjeu, compte tenu de l'ambiance, et ce que les joueurs ont montré.
Je l'ai vécu comme une immense claque. J'avoue que après le match à Reims, j'avais repris espoir et cet espoir s'est nourri au fur et à mesure de la semaine. Cette irrationalité du supporter qui fait qu'on y croit même quand c'est le plus désespéré possible. Et cet espoir a été douché au bout de 10 minutes de jeu par ces deux buts encaissés très rapidement. On a vu très vite que l'équipe, de toute manière, n'était pas, ne répondait pas à ce que le public tentait de lui insuffler comme énergie. Et on a très vite compris que malheureusement, l'équipe ne répondrait pas présent et qu'elle n'arriverait pas à réagir. Et ça a été vraiment un énorme encore ascenseur émotionnel, hein, parce que cette demi-heure passée dans le stade avant le coup d'envoi, avec cette ambiance complètement dingue pendant l'échauffement et ce début de match, et ce qui s'en est suivi, bah, nous a amené au final à cette tristesse infinie à la fin, malgré tout, empreinte de résignation, telle qu'on l'a vécue depuis un petit moment déjà.
Oui, ce hiatus entre le meilleur public de France, enfin, public Ligue des Champions, un stade extraordinaire, et puis des joueurs qui se sont fait balader. On y reviendra un peu, mais moi je considère qu'ils se sont fait balader par les 12e de Ligue 1 qui étaient en vacances. Alors, il y a ceux qui étaient au stade et ceux qui n'y étaient pas. Moi, je n'y étais pas. J'étais à Reims, par contre, j'ai eu cette chance-là. J'ai pu voir une victoire, c'est bien. J'ai pu voir des maillots verts partout aussi. Enfin, c'est hallucinant. Mais bref. Par contre, dissident, je pense que tu n'y étais pas non plus. Et c'est un peu différent de le vivre à distance. Je sais pas, tu vas nous dire comment toi tu l'as vécu, mais je trouve que quelque part c'est plus dur parce qu'on est plus solitaire dans sa tristesse.
Ouais, c'est ça. Tristesse, et quand tu es triste tout seul, c'est sûr que c'est encore peut-être plus dur. En tout cas, ces sentiments pour cette descente, c'est des sentiments vraiment très différents de ceux de 2022, quoi. Par hasard, a rappelé un peu la colère de 2022. Et là, je pense on a tous partagé plutôt les sentiments de tristesse, de résignation, de dépit. Moi, ça fait un petit moment que j'étais résigné. Je pensais vraiment qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Et bien évidemment, après le match de la victoire à Reims, j'y croyais encore un tout petit peu, mais l'écart avec ce qui était attendu de la Ligue 1 était tellement important cette année. On a tellement montré que on n'a presque pas de regrets finalement. Je pense qu'on a tous compris notre sort et accepté notre sort. Maintenant, il va falloir réagir et on va en parler après.
Oui, des moments de résignation, mais c'est pareil, hein, on va gratter un peu ça parce que on va en parler après, mais je commence dès à présent à aborder le sujet. Je trouve que c'est un peu facile aussi de dire que les joueurs n'étaient pas au niveau. C'est juste, c'est pas de leur faute, quoi, ils sont pas bons. C'est vrai, ils sont pas très bons, mais il y a peut-être d'autres choses à dire. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était résigné depuis un moment, c'est Berivel. Alors, non pas que son amour du club soit à remettre en cause, mais il avait senti qu'on était trop juste. En tous les cas, c'était son analyse. Verivel, tu veux dire un petit mot sur la manière dont tu as vécu les choses? Peut-être me démentir, mais je crois pas.
Non, non, je ne veux pas te démentir. Alors, moi, j'ai vécu les choses heureusement de très loin parce que j'étais en soirée entre amis qui était prévue depuis très longtemps et j'ai quand même regardé le match, mais de loin. En tous les cas, j'ai regardé la première mi-temps, pas après. Mais c'est vrai que, bon, quand au bout de 5 minutes, on se prend le but qu'on se prend, on voit tout de suite que c'était pas. Moi, j'avais vraiment très très peu d'espoir de toute façon. Et c'est vrai qu'après le but au bout de 5 minutes, puis un deuxième au bout de 15, bon, c'était réglé. Mais pour moi, il y avait zéro surprise. Donc effectivement, ça a un peu aussi atténué toute la colère que j'aurais pu être. En plus, j'étais entouré, moi. J'étais pas tout seul. Donc, voilà. Mais aucune surprise. Et pourtant. On s'attend à rien, mais on est quand même déçu. Voilà, c'est ça.
Oui, malheureusement, c'est une expression classique, mais qui va comme un gant à notre saison. On s'attend à rien, mais on est quand même déçu parce que les joueurs, le plus souvent, ont réussi à nous décevoir, même lorsqu'on attendait peu. Donc, les joueurs, c'est le premier point, le premier domaine, on va dire, qu'on va aborder. On va essayer d'analyser en essayant de comprendre. Pourquoi il y a eu autant de performances médiocres, parfois honteuses même, on peut dire, hein, à plusieurs reprises. Est-ce que c'est seulement un problème de niveau? Avec qui on a envie de repartir l'année prochaine? Alors nous, on décide de rien, mais on a le droit d'avoir une opinion et des envies à ce niveau-là. Quelles sont les priorités de recrutement pour repartir? Et puis, il y a les cas des joueurs qui, eux, ont plutôt donné satisfaction. Et puis, on en parlera peut-être dans cette partie. On reviendra dessus aussi quand on abordera la question de la direction, parce que l'attitude de la direction avec les joueurs les quelques joueurs qui sont au niveau, ça va nous donner des infos quand même, à mon avis, sur la direction. Alors, on commence par ces joueurs. Et donc, j'ai beaucoup lu ces derniers temps. En fait, les joueurs, il n'y a rien à leur reprocher. Ils ont tout donné tout le temps. C'est juste qu'ils ne sont pas au niveau, qu'ils ne sont pas bons. Par hasard, je commence avec toi. Est-ce que c'est un avis que tu partages ou est-ce que tu veux nuancer ce propos que, je répète, hein, j'ai lu à plusieurs reprises de nombreuses fois sur les réseaux sociaux?
Globalement, je le partage, moi, ouais. Mais je le partage parce que je trouve vraiment que dans l'esprit, ils ont toujours été là. Ou en tout cas, si certains ne l'ont pas été, ça s'est vraiment pas vu. Et je pense qu'il y a le niveau individuel des joueurs qui est en cause, mais il y a aussi l'organisation, les choix tactiques de l'entraîneur qui le sont assez largement. Et donc, pour moi, c'est un savant mélange des deux qui, plus c'est un petit manque de réussite parce que finalement, on descend à 3 ou 4 points près. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça de se maintenir. On a battu Reims qui est au-dessus de nous. Voilà, on voit bien qu'on n'était pas si loin que ça, mais qu'on était condamné à jouer les 5 dernières places. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Quand on jouait les 5 dernières places, on n'était pas Montpellier, on était mieux. On aurait pu être peut-être avoir 4 points de plus. Mais pour moi, les joueurs, ils ont fait leur max dans un système auquel, à mon avis, ils n'ont pas totalement adhéré. Ça a un peu transpiré quand même de 2-3 déclarations de Larsault ou d'Appia. Récemment, même s'ils n'ont jamais été ouvertement critiques. Mais pour moi, l'autre élément, en dehors de la faiblesse des joueurs, c'est vraiment ça. C'est les choix tactiques, ou le choix tactique, puisqu'il y a une seule tactique depuis janvier, et qui a toujours été la même, sans aucune variation.
Oui, alors la tactique, effectivement, c'est important. On va en parler plus précisément quand on abordera le cas d'Orneland. Et d'ailleurs, Reims, à mon avis, va descendre hein, parce qu'ils sont d'une nullité. Enfin, c'est affligeant, c'est incroyable. Mais ils ont failli se sauver en se foutant tous derrière, en changeant de tactique et en l'ayant décidé, suite au changement d'entraîneur, en l'ayant décidé ensemble, entraîneur et joueur. Alors, dans ce que tu dis par hasard, l'aspect implication des joueurs donc n'est pas remis en cause. Pat, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as le sentiment que, on va dire globalement, l'implication des joueurs a été à la hauteur? Je dis globalement parce que si on regarde dans le détail, il me semble évident que la réponse est non. Il n'y a qu'à regarder à Nice, par exemple. Quand on est professionnel, on ne perd pas 8-0 face à Nice si on est totalement impliqué. Mais on va dire qu'on ne peut pas exiger d'un être humain qu'il soit impliqué à 100% en permanence. Ce n'est humainement pas possible. Mais au moins globalement, est-ce que ça te semble avoir été à la hauteur en termes d'implication cette saison?
Pour moi, il faut distinguer, je pense, deux périodes. Là, clairement, pour moi, sur la période avec Olivier Dalloglio, la question peut se poser. Tu fais référence au match à Nice, mais moi, je ferai référence de manière assez générale à chaque match où on a pu vivre, où on s'est retrouvé rapidement à 10, où on n'a jamais vu une équipe en fait trouver ce supplément d'âme qui anime quand même pas mal d'autres équipes dans ce championnat et qui leur ont permis au moins de résister et de pas sombrer. Combien de fois nous on a sombré en se prenant un carton rouge puis un but derrière, etc. Je pense au match à Rennes et puis, notamment c'est moi c'est celui-là qui m'avait le plus marqué, mais je pense qu'on pourrait repérer beaucoup d'autres matchs. Je pense qu'il y a eu une période quand même où l'équipe a pris conscience aussi de ses limites, elle les connaissait, et je pense qu'il y a eu un moment, notamment sur cette deuxième partie de première partie de saison, où l'équipe s'est sentie résignée. Là où je rejoins par hasard, c'est que j'ai eu moi cette impression sur cette deuxième partie avec l'arrivée d'Eric Horneland que c'était moins le cas. J'ai quand même vu des mecs qui ont fait le maximum. Je pense qu'ils ont sincèrement fait le maximum sur pas mal de rencontres. Mais là, on touche du doigt après les limites de talent, de niveau de ces joueurs. Et ça fait des mois qu'on le répète, émission après émission. On le savait pertinemment que cette équipe, de toute façon, n'avait pas le niveau, en tout cas sur bien, bien des postes, pour pouvoir prétendre à exister de manière positive dans ce championnat. Donc oui, moi, pour moi, je nuancerais, voilà, pour moi, il y avait quand même des défauts, des manques d'implication et beaucoup de résignation face aux situations contraires sur cette première partie de saison que j'ai un peu moins ressenti sur la deuxième. J'ai senti une équipe qui tentait quand même malgré tout de revenir à chaque fois, même si du coup ses limites l'en empêchaient souvent.
Oui, si c'est vrai, c'est-à-dire s'ils ont donné le maximum, enfin, je veux dire, pas, de ce qu'on peut attendre, hein, je répète, être à 110% en permanence, ce n'est pas possible, mais si c'est vrai et s'ils ont donné le maximum, alors ils ont beaucoup, beaucoup de soucis à se faire pour la suite de leur carrière, parce qu'on a vu des choses qui sont quasiment incompréhensibles pour des joueurs professionnels. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Alors, on vient de faire un constat quand même qui n'est pas très flatteur pour les joueurs, même si ce n'est pas tout noir. Dissident, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu aimerais qu'on reparte? C'est-à-dire des joueurs qui te semblent, à la fois en termes de niveau, d'état d'esprit, de tout ce qu'on veut, parce qu'on n'est quand même pas un club lambda, et donc il faut quand même des joueurs qui se fondent et qui aient une attitude cohérente avec les valeurs du club. Enfin, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a dans cet effectif des joueurs avec qui tu aimerais repartir l'année prochaine en espérant enclencher enfin une dynamique positive de plusieurs années?
Bah, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir une équipe de joueurs de Ligue 2, c'est que quand tu retombes en Ligue 2, bah, du coup, tu peux t'attendre à ce que les joueurs aient le niveau. Et si on regarde individuellement, on a quand même encore aujourd'hui au club des joueurs qui, sur le papier, ont tout à fait le niveau pour performer en Ligue 2. Si je prends Larsonneur, Nadé, Petro, Moueffec, Cardona, tout ça, c'est des joueurs qui ont déjà fait leur preuve il n'y a pas si longtemps, c'était juste il y a un an. Le seul bémol que moi je vais mettre là-dedans, c'est au point de vue psychologique, parce que je pense que c'est hyper compliqué pour ces joueurs d'avoir connu la montée de Ligue 2 en Ligue 1, puis la saison qui vient de se passer où ils sont ramassés quand même des défaites sur défaites. Et comment est-ce que dans leur esprit, ils vont se remettre en mode commando pour repartir de l'avant dans un projet monté, remonté de Ligue 2 en Ligue 1. C'est un peu le point d'interrogation que je mets. J'ai pas la réponse, évidemment, puisqu'on on n'est pas à l'intérieur du groupe. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir faire le tri et on sera peut-être surpris de voir des joueurs, certains joueurs partir parce que le club aura estimé qu'ils ont peut-être pas le mental pour avoir absorbé tous ces hauts et bas là sur les derniers mois qui, à mon avis, sont très très usants sur le plan psychologique.
Oui, ça c'est vraiment, tu arrives dans le, à mon avis, dans le cœur de la question, parce que pour ce qui est des niveaux, bon, on peut tous avoir nos avis, mais si on ne prend pas en compte cette capacité à se réinvestir dans le projet, alors on a tout faux. Alors notre réflexion, elle ne sert à rien. Et dans ces joueurs, si on fait le tri entre donc ceux qu'on pense avoir un niveau suffisant, non pas pour jouer en Ligue 2, à Quevilly, enfin, je crois que Quevilly sont descendus, mais peu importe, mais jouer la montée et pourquoi pas ensuite participer à un projet en Ligue 1, donc quand même des joueurs costauds, et qui en plus ont l'état d'esprit, enfin qu'on pense être suffisamment combattants, suffisamment investis pour pouvoir batailler la saison prochaine. Par hasard, est-ce qu'il en reste? Ou est-ce qu'il faut repartir d'une feuille blanche? Est-ce que tu es partisan de repartir d'une feuille blanche? Ou est-ce que tu veux t'appuyer sur certains joueurs qui pourraient faire office de cadre?
Moi, je suis assez contre, par nature, en fait, par caractère, contre le principe du coup de balai généralisé, en se disant on rase gratis et on repart vraiment de zéro. Alors, c'est un peu aussi par sentimentalisme, excès peut-être de romantisme, mais moi, je pense que Petro, en particulier, avec toutes ses limites, moi, je fais partie de ceux qui auraient aimé, même en Ligue 1, qu'on le prolonge. Parce que je pense que c'est dans un effectif, il a sa place, pas forcément en tant que titu, mais je trouve qu'il a sa place et qu'il a notamment montré dans les matchs où il fallait avoir du caractère qu'il était au rendez-vous. Je pense au derby, je pense à ce type de match. Je pense que Petro, Nadé, voilà, notamment, sont ou Tardieu sont des joueurs sur qui on peut compter. Alors, la question, c'est, et qui, à mon avis, ont un caractère suffisant pour se relever et pour tout donner. La question, c'est si on remonte dans l'hypothèse où on remonterait dans 12 mois, est-ce que ces joueurs, on les conserve en Ligue 1 finalement? Pour moi, Nadé et Petro, oui. En fait, c'est ça les deux conditions. C'est est-ce qu'ils ont le caractère suffisant pour repartir au combat et pour ensuite être dans un groupe qui serait en Ligue 1. Donc pour moi, il y a ces deux-là. Cardo, même s'il m'a beaucoup déçu sur la fin de saison, je me pose la question sur Mouefec. Donc je dirais Petro, Nadé, Cardo avec un petit point d'interrogation et Mouefec aussi. Et puis Tardieu pour la Ligue 2 tous les jours, parce que je pense que il a vraiment de l'expérience qui est enfin qui est importante dans cet effectif, qui est une valeur ajoutée importante dans cet effectif.
Très bien. Alors, tu dis des noms, je pense, on doit en avoir en commun tous. Enfin, en tous les cas, ce sont des noms qui trottent dans la tête plus que d'autres. Mika Nadé, par exemple, qui a été le meilleur défenseur de la saison chez nous de très loin. Et je pense qu'il a montré qu'il avait le niveau Ligue 1, il me semble, en tous les cas. Ça fait partie de ces joueurs sur lesquels on aimerait s'appuyer, mais j'ai déjà lu qu'il ne resterait pas, semble-t-il. Louis Mouton non plus, t'as pas parlé de Louis Mouton? Donc moi, ce garçon-là, j'aimerais bien qu'il reste, mais il semblerait, enfin bon, après les bruits entre ce qu'on lit et ce qui va se passer, il y aura de grosses différences, a priori. Alors, une petite intervention de Verivel, probablement au sujet du chat ou du forum.
Oui, alors c'est surtout le chat. Là, il y a plein d'historiques, en fait, d'historiques de chez les historiques de Potocari qui sont sur le chat
Eh
YouTube. Et
ben,
il y a même une.
on les remercie,
Voilà.
on les remercie.
Et il y a
On est
même une
content que vous
famille au
soyez là
complet.
avec
Hein.
nous.
Il y a même une famille au complet avec Vali et son pouic-pouic, là, qui discutent,
D'accord.
avec notamment un gros débat autour de
Mais ça veut
l'Arseneur.
dire qu'ils sont descendus à Saint-Thé, probablement, parce que je crois qu'en Haute-Loire, il n'y a pas Internet, il me semble. Hein.
Bon, écoute, je verrai les réactions tout à l'heure sur le forum. Donc, oui, un gros débat sur notamment le niveau de l'Arseneur, et puis assez d'accord avec par hasard notamment sur le niveau des autres pour la Ligue 2. Mais voilà, donc vraiment beaucoup d'activités sur le chat. Allez-y, exprimez-vous. Hein.
Eh ben, ouais, et puis surtout, toi, n'hésite pas à nous faire part des réflexions des uns et des autres. Ça nous intéresse. Alors, bah, on va peut-être se saisir du cas Larsonneur. C'est vrai que le gardien, c'est un cas particulier quand même dans un effectif. Dissident, Larso, toi, j'ai pas d'infos sur est-ce qu'il a envie de rester, est-ce que, mais t'aimerais qu'on s'appuie sur lui la saison prochaine s'il était motivé pour?
Moi, j'ai aucun doute sur la capacité de l'Arseneur à assurer une équipe de haut de Ligue 2, à assurer une mission remontée. Il l'a déjà fait, déjà. Et je trouve qu'il a le caractère pour. Moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie globalement. Je persiste à penser que cette saison, ça n'a certainement pas été le pire joueur de l'effectif, qu'il a globalement fait ses matchs. Quelques erreurs, mais bien sûr. Beaucoup de buts encaissés, mais beaucoup d'arrêts aussi. Et si tu regardes, par exemple, ne serait-ce que le dernier match contre Toulouse, ben il sort quand même des arrêts assez de haut niveau. Donc, je sais bien qu'on peut lui reprocher cette année de ne pas avoir fait basculer plus de matchs dans le bon sens. Mais en tout cas, pour la Ligue 2, avec un Larsonneur motivé, franchement, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a eu un certain nombre de matchs où il a fait des arrêts déterminants qui n'ont rien rapporté parce qu'on a perdu. Et c'est vrai aussi qu'il y a quelques matchs où il aurait pu être plus décisif. Et je l'ai vu se faire critiquer vertement pour ça. Bon, j'ai trouvé ça un peu sévère. Moi, je pense qu'on peut s'appuyer dessus. Alors, on va essayer d'être un peu efficace. sur ces questions de joueurs avec lesquels on peut reconstruire. Pat, mission difficile pour toi. Je te demande trois noms. Essaye pas de négocier un quatrième ou quoi. Je te dis trois noms. Si tu pouvais conserver trois joueurs de l'effectif en tenant compte de tout ce qu'on a dit, le niveau, la capacité à s'impliquer, etc., donne-nous les trois joueurs que tu choisirais.
Bon, si on accepte bien sûr ceux qu'on ne pourra pas retenir et ceux qui seront en fin de contrat, il en reste finalement très peu. Trois noms, déjà moi je garde Cardona. J'adore ce joueur et je pense que même si il aurait pu apporter un peu plus cette saison encore, il fait quand même une demi-saison tout à fait honorable et la Ligue 2, il sera à son niveau et je pense qu'il nous fait la même saison que la montée, ça peut être top. En deux, là, ça devient plus difficile. Moi, en fait, pour moi, j'en ai pas tellement d'autres. C'est qu'avec toute la vague de
Ah,
départ qui
mais
s'annonce,
Pat, t'as le droit, hein? T'as le
Ouais,
droit, c'est
ben, en
trois
fait,
maximum. Trois maximum, mais
après,
tu peux en donner qu'un.
voilà. Moi, un qui me vient en tête, mais je pense que sur la Ligue 2, il sera à son niveau. Après, c'est ses pépins physiques. Est-ce que ça va tenir ou pas? C'est Emen Mouefek. Je pense que notamment sur la deuxième partie de saison avec Horneland, il a pu s'exprimer beaucoup plus qu'avec Olivier Dalloglio en première partie de saison. Et ça peut être, je pense, pour moi, un élément moteur de notre milieu de terrain, s'il parvient, bien sûr, à oublier ses pépins physiques. Et donc, s'il en faut un troisième, je l'ai en tête, et ça sera mon dernier, ce serait Florian Tardieu. Typiquement, sa deuxième partie de saison est excellente, et s'il arrive à maintenir ce niveau en Ligue 2, il peut être le patron de notre milieu de terrain pour une opération remontée, ce serait à mon avis très très bon.
Oui, Florian Tardieu, je pense que c'est l'un des plus gros échecs de Dalloglio qu'il ne faisait pas jouer du tout. Et Florian Tardieu, c'est dans les fondamentaux, contrôle passe, c'est le meilleur de l'équipe, je pense. Peut-être avec Benjamin Bouchouari. Mais comme il tricote moins, il est plus efficace. Et je pense vraiment qu'il a apporté quelque chose, une vraie plus-value technique. Alors, on partait de loin, attention, hein, pas d'enflammade. Mais il a apporté une vraie plus-value technique, Florian Tardieu. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir jouer. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir progresser physiquement. Parce qu'au début, il était cramé tout de suite. C'était une catastrophe. Et le fait de jouer, évidemment, ça l'a permis de progresser. Alors, bon, il y a des joueurs avec lesquels on veut reconstruire, mais il y a aussi les priorités de recrutement, les postes qui semblent absolument indispensables de renforcer. Alors tout ça, ce sont des chantiers monstrueux. Et tout ça, c'est difficile à mener parce qu'on ne sait pas exactement qui va partir. Alors, c'est un peu difficile de parler des joueurs sans parler de Stassin, je trouve. J'avais prévu d'en parler dans la dernière partie, mais peut-être qu'on peut en parler dans les deux parties. Mais par hasard, est-ce que pour toi, c'est acceptable de laisser partir Lucas Stassin? Est-ce que c'est un truc que tu comprends? C'est de la gestion. On va faire 18 millions de plus-value en un an. C'est normal. C'est le foot moderne. Ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est inacceptable?
Pour moi, ce qui était inacceptable, c'était de faire partir Amougou. Parce qu'Amougou, on est en Ligue 1. Amougou, il n'a rien démontré. Et on le fait partir alors que voilà, on a un contexte de Ligue 1 à lui proposer, à ce jeune prometteur. Et il n'a encore rien démontré. Donc, bref. Stassin, on est en Ligue 2. C'est un des 3-4 meilleurs buteurs de la seconde partie de saison. Il a 20 ans. Je ne vois pas comment on peut le retenir, malheureusement. Enfin, j'adorerais qu'on le retienne, mais en fait, pour retenir un mec comme ça, il faut deux conditions. Il faut que lui, il ait envie et que l'actionnaire refuse des offres à 20 à 25 millions qu'on va pas tarder à recevoir. Peut-être que la deuxième condition, elle est jouable, mais la première, malheureusement, j'y crois pas, quoi. Il n'est pas tombé amoureux de Saint-Étienne au point de se dire, tiens, je vais aller m'enterrer en Ligue 2, alors que ça fait 3 mois que c'est devenu un peu une star, quoi. Donc malheureusement, est-ce que c'est acceptable? Ce qui est inacceptable, c'est d'être descendu avec ces actionnaires-là À partir du moment où tu descends, malheureusement, il y a des réalités du foot de 2025 qui me semblent incontournables. Donc, hélas, c'est acceptable pour moi d'imaginer que, enfin, d'être convaincu que c'est enfin, de laisser partir cet assassin.
Oui, ce sont les. Là, tu pointes du doigt les limites du conducteur en 3 points, les joueurs, le staff, Orneland plus précisément, la direction, parce qu'on a très envie de parler de la direction, de ce pari qu'ils ont fait ou de cette stratégie. Enfin bon, personne n'y comprend rien. Eux, ils sont contents en tous les cas, eux, ils sont contents. Rien n'a changé, ils sont contents. Bah nous, on l'est un peu moins, et puis il va falloir qu'on en parle précisément. Enfin, je dis, ils sont contents, rien n'a changé, leur stratégie, ils sont sur deux, ils ont des moyens, même s'il y a 0 € de droits TV, il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème. Ils sont tristes pour les supporters. Ah, bon, c'est un minimum, je dirais. Mais on n'a pas un moment l'impression que ce sont des larmes de crocodile. Bon, on verra. Alors, dans les priorités de recrutement, oui, c'est difficile de se prononcer ne sachant pas qui va rester, qui va partir. Mais même en partant de l'effectif actuel, il y a probablement des postes à renforcer. Pat, j'ai beaucoup lu de choses et on en a parlé dans l'émission sur les limites de nos latéraux. Alors, par hasard, a parlé de Léo Pétraud et je partage 100% son avis. Et je trouve qu'en plus, sur la saison, il a progressé. On connaît ses qualités, ses défauts. Mais est-ce que tu mets les latéraux en tête de liste sur les profils à cibler pour la saison prochaine?
Bah, c'est une évidence. Et même pour moi, enfin, même si j'aime beaucoup la saison qu'a fait Léo Pétraud, il affiche trop de limites à ce poste d'arrière-gauche pour pouvoir y rester de manière plus pérenne. Moi, j'apprécierais plutôt de le voir se recentrer un petit peu, plutôt en défense centrale. Bon, même s'il sera du coup en concurrence avec Mickaël Nallet, évidemment. Mais bon, j'apprécierais plus ça. Pour moi, c'est une évidence. C'est latéraux, ça fait des années qu'on en parle. Cette saison, ça a été une pure catastrophe toute la saison. Tous les buts qu'on a pris, les 80% des buts qu'on a pris, ça vient toujours des côtés, ça vient des changements de côté. Et à chaque fois, nos latéraux sont toujours pris. Alors, la tactique, il joue pour beaucoup, on en reparlera après. Mais pour moi, évidemment, si on veut que Eric Orneland applique son système de jeu très très ambitieux, offensif, pressing très haut, etc., et bien, il faut que les quatre défenseurs soient des top top joueur, et il faut donc deux latéraux top joueurs top niveau. C'est absolument indispensable. Je vois pas comment on peut repartir rebâtir une équipe sans des latéraux de haut niveau. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en Ligue 2, donc il va falloir les trouver, ces latéraux de haut niveau, et ça sent encore les paris malgré tout, comme on a pu avoir en début de saison dernière, et c'est ça qui me fait peur.
Oui, c'est évident que c'est moins attractif de venir à Saint-Étienne en Ligue 2 qu'à Saint-Étienne en Ligue 1. Parce que même un Saint-Étienne 16e en Ligue 1 peut attirer, surtout avec les actionnaires. Voilà, il a fallu un peu de temps, c'est la première saison. Le discours passe mieux que de repartir en Ligue 1. Alors, avant de donner la parole à Dissident, petite intervention de Verivel.
Oui, tout simplement parce que les messages continuent à affluer sur le chat YouTube avec chacun qui donne un petit peu sa liste de joueurs, soit qui doivent rester et soit de postes où les recrutements vont être obligatoires selon eux. Alors,
Tu peux nous
on
donner quelques
retrouve.
exemples? Tu peux
Ouais,
nous
je
donner quelques
peux.
exemples de listes?
Bah, par exemple, Clément qui nous dit Tardieu, Petro, Cardona.
Ouais, pas mal,
Vali
c'est
qui nous
cohérent
dit
avec les envies
ouais.
de l'équipe là pour l'instant.
Voilà, Vali qui nous dit Petro Mouefek, elle, pour elle. Et puis Larssoner, toujours avec enfin, le débat dont j'ai parlé tout à l'heure sur Larssoner. Et puis ben, au niveau des recrutements, il y a Jimmy là qui nous dit il faut recruter trois défenseurs de gros calibre, deux latéraux et un central. Là carrément. Et donc trois défenseurs à recruter. Donc ce sera pas de tout repos, je pense, cet été.
Non, non, cet été, ça ne va pas être de tout repos. Et je pense qu'il a raison, j'ai oublié son nom malheureusement,
C'est
pour
Jimmy.
les Jimmy. Et je pense que Jimmy a raison parce que J'ai peur que Mikanadé parte. Batoubine Sika, alors on n'en a pas parlé. Bon, on a trop de choses à dire, mais son chute après la réduction du score, là, je ne sais pas à qui ça s'adressait, mais
Ouais.
il aurait
Alors,
mieux fait de se
il
calmer.
fait pas l'unanimité hein, sur le chat, hein,
Ah bah non,
effectivement.
mais enfin, il fait pas l'unanimité. Sauf s'il y a une explication à laquelle je ne pense pas. Mais sinon, c'est Raos, hein, dehors. Hein, enfin, je veux dire, pour qui il se
Bah, je
prend.
pense que c'est pour le mec qui lui a mis un bourre-pif à la sortie du stade il y a 2 mois, ça, à mon avis.
Ouais, tu crois? Bon.
Ah bah je pense, non. Enfin, moi je
Je pense
l'interprétais comme
pas.
ça.
Ouais, bah
Ça
peut-être.
m'avait pas l'air si franc, ouais, effectivement. Moi, je
Non.
suis un peu de l'avis d'Oswaldo pour ce coup-là.
Ouais. Non. Mais bon, bref. Toujours est-il que, y a des joueurs qui vont partir et on a en interne, mine de rien, assez peu de réserves. Pierre Cornu n'a rien démontré, il ne peut pas être une alternative crédible à Léo Pétraud. Côté droit, Ivan Masson est en fin de contrat, je pense qu'il ne va pas rester, hein. Il ne peut pas dire qu'il ait eu une intégration très réussie à Saint-Étienne. Bon, donc il va falloir du monde. Effectivement. Alors, il y a un truc, et Pat parlait de ses craintes sur le profil, et d'ici non, je voulais t'interroger là-dessus. Est-ce qu'en Ligue 2, on peut partir sur des prospects, des Bénold, des machins, si on en récupère 5 comme ça encore, est-ce qu'on va pas au-devant d'une catastrophe? Moi, il me semble quand même, j'entends depuis toujours que. La deuxième division, c'est pas facile et qu'il faut absolument avoir des joueurs qui ont l'expérience de ce championnat dans son équipe pour pouvoir jouer les premiers rôles. Alors, est-ce que tu partages cet avis ou est-ce que tu es prêt à faire confiance aux data et partir avec une équipe de 21 ans de moyenne d'âge venant du Monténégro et des îles Falkland? Pour aller chercher la montée. J'ai presque donné la réponse dans la question, je crois.
Ouais, c'est ça. Je vois pas trop, je peux pas trop répondre autre chose que non. Moi, je suis quand même hyper inquiet, effectivement, sur la politique engagée. Je pense qu'on a un peu pris la Ligue 1 de haut et il faudrait pas qu'on prenne la Ligue 2 de haut non plus, quoi. La Ligue 2, c'est quand même une division qui est sérieuse où on sait très bien le type d'adversaire qu'on va avoir. On va être attendu dans chaque stade, ça va être la fête de l'année quand les Verts vont se déplacer. On va tomber contre des blocs qui vont être joués très bas et qui vont appuyer là où ça fait mal en contre. Je pense qu'on ne peut pas partir la fleur au fusil. On l'a vraiment vécu sur nos dernières descentes. La première année, à chaque fois, on avait l'impression de découvrir que la Ligue 2, c'était quelque chose de compliqué. Donc c'est vraiment un de mes points d'inquiétude sur l'été, là, le recrutement, le mercato d'été, parce que on s'est clairement planté sur le mercato. D'été et d'hiver l'année dernière, on a fait un mercato qui n'était pas du tout assez équilibré. Il faut vraiment rectifier le tir. Et bah, vu que la direction a l'air d'être sereine et que Éric Horneland a l'air d'être tranquillement dans son fauteuil là pour l'été, eh ben moi ça m'inquiète beaucoup.
Oui, c'est compliqué de réussir à saisir ce qu'ils ont en tête, cette direction. Bon, alors, tu fais le lien, tu parles du mercato d'Éric Horneland, donc ça fait le lien avec la deuxième partie. Horneland, stop ou encore. Le sorcier norvégien, il n'a pas ensorcelé grand monde. Alors, moi, je trouve qu'il y a une question qui se pose. Question d'emblée pour par hasard. Au-delà du fait, Horneland, stop ou encore, tu nous diras si tu as envie qu'il reste ou pas, mais une question toute simple, factuelle. Est-ce qu'il a fait progresser l'équipe depuis qu'il est arrivé? C'est-à-dire, quand on regarde le match face à Reims, le premier match où il est sur le banc, et quand on regarde le dernier match face à Toulouse, et qu'on regarde tout ce qu'il y a entre ces deux matchs, est-ce qu'il y a une progression, selon toi?
Il faut que tu arrêtes de poser des questions ou tu réponds dans ta question, quoi. Parce que
Bah non,
effectivement, si
enfin,
tu prends Reims de janvier et Toulouse de mai,
non,
bon,
et j'ai
t'as la
dit tout ce qui
réponse.
est, je, non,
Et
et
tout ce
j'ai
qu'il y
pris
a
soin de
au
dire
milieu.
et tout ce qu'il y a entre les deux.
Bon, alors moi,
Est-ce
enfin, de
qu'il y
toute
a une
façon,
progression globale?
Je suis vraiment loin d'être l'avocat numéro un d'Ordeland. Donc, pour moi, il n'y a pas de progression. En gros, on a mis plus de buts. Je vous la fais très basique. Hein. Ce n'est pas du raisonnement de tacticien de haut vol, mais on a mis plus de buts parce qu'on a pris plus de risques. Mais on a continué à en prendre beaucoup. Et quand tu prends plus de risques, normalement, c'est parce que tu acceptes de prendre des cartons, mais parce que tu te dis que tu vas gagner plus de matchs qu'avant. Et on n'en a pas gagné plus. On a gagné que des matchs dans des situations bien particulières. On a battu Reims en janvier parce que Reims était encore en vacances. Les Japonais venaient de rentrer et Reims venait de vendre un ou deux joueurs importants. On a battu des abrutis qui étaient à ramasser la petite cuillère. On a battu Montpellier qui était à la ramasse et on a été bien aidé par des abrutis qui ont balancé des fumis, qui ont fait je sais pas quoi. Et puis on a rebattu Reims qui était convaincu qu'il allait se maintenir et puis qui commençait à penser à la finale de la Coupe de France. J'exagère un peu, mais pas loin. Et pour moi, on n'a vraiment pas progressé et on a d'ailleurs plutôt régressé au classement puisqu'on a perdu au moins une place entre la fin de Daloglio et la fin de la saison. Donc je suis un peu sévère parce qu'offensivement, on a vu des choses sympas, mais vraiment par intermittence. Et pour moi, ça suffit, mais vraiment largement pas à me satisfaire, quoi. Donc, et puis les stats ne mentent pas, malheureusement. Donc pour moi, on n'a pas progressé, non. Et il n'a pas fait progresser l'équipe.
Non, moi, je suis assez d'accord, hein. Il s'est entêté dans son schéma. Peut-être que en fait c'était le meilleur schéma possible et que les joueurs sont tellement nuls que on pouvait pas faire mieux. Mais factuellement, les autres vous protesterez si vous n'êtes pas d'accord. Je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès. Intervention de Verivel. Ah tiens, je voudrais quand même. Non, attends, excuse-moi, ouais. Verivel. Je voudrais quand même dire, je me suis renseigné. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit il y a pas internet dans la Haute-Loire. C'est pas vrai. Il y a trois rues du Puy qui ont Internet. Le Puy en volet, il y a trois rues, c'est récent, hein, qui ont Internet. Par contre, les autres, toujours pas. Oui, on t'écoute.
Je te laisserai oui, aux prises avec qui de droit après l'émission. Oui, alors pour une fois, je ne voulais pas intervenir sur le chat YouTube, mais bien sur le sujet en ce moment dont on parle pour Orneland. Moi, je trouve qu'au-delà de la tactique, il y a aussi une question de gestion des matchs qui, moi, m'a paru complètement nul de sa part. Notamment, je parle le match déjà, le dernier match, là, contre Toulouse, où on a commencé en jouant dès la première minute comme s'il restait une seule minute de jeu, ce qui est complètement débile parce que finalement, contre Toulouse, on avait juste besoin de mettre 1-0. Ça suffisait largement à notre bonheur. Là, je sais pas pourquoi, on s'est lancé comme des maboules à l'attaque pour marquer dès la première minute alors que, voilà, avec les résultats qu'on connaît. Et je voudrais aussi reparler un truc qui m'a marqué, c'est le match contre Monaco, où quand par miracle absolu, on arrive à égaliser suite à un exploit individuel, alors que l'équipe de Monaco, on voit bien pendant tout le match qu'elle est largement supérieure à nous, eh ben, on ne change rien, on a 1-1, on ne change rien. On est toujours comme des débiles là, à être tous à l'attaque et on se fait prendre 2 minutes après notre but, quoi. Donc moi, sur la gestion des matchs aussi, il n'y a pas que la tactique pour moi où il y a un gros problème du côté d'Orneland, c'est sur et son staff, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, sur la gestion des matchs, c'est, pour moi, c'est vraiment pas terrible. Donc, moi, je suis un peu comme par hasard, je ne suis pas le plus grand défenseur d'Orneland de la région. Quoi. Voilà.
Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un truc dont j'avais parlé dans l'émission, d'ailleurs. Je n'ai pas été convaincu par plusieurs fois par les compos d'entrée. Alors, Gillian, par exemple, contre Monaco, absurde. Enfin bon... C'est facile à dire après, mais je l'ai dit avant. Alors peut-être que dans un monde parallèle, il a marqué un triplé et puis je suis un con, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce gamin là qui a marqué avec les U17 de l'équipe de France contre l'Allemagne, bravo à lui, il n'a jamais montré qu'il avait le niveau Ligue 1. Enfin, à 16 ans, c'est quand même rare d'avoir le niveau Ligue 1. Donc, il est des petits bouts de match, des machins, admettons. Mais là, c'était quasiment le joker numéro un. Et puis titulaire plusieurs fois, enfin, contre Monaco, c'était, à mon avis, totalement absurde. Alors, c'est effectivement un point que je voulais aborder au-delà du fait de savoir si l'équipe avait progressé globalement. Pat, on a tous notre idée sur les compos, toujours, et puis sur les changements qu'il faudrait faire, hein, que ce soit devant la télé ou au stade. On est tous des entraîneurs en puissance. Est-ce que l'entraîneur qui sommeille en toi a été globalement satisfait par le coaching d'Éric Horneland, ou est-ce que, comme Verivel, tu n'as pas été convaincu?
C'est difficile d'être convaincu par ce coaching, hein. Pour ma part, enfin moi, de ce que d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de coaching? Est-ce qu'il a déjà fait du coaching? À part une ou deux situations, je pense au derby où il repasse à 5 derrière, c'est une des rares fois où il l'a fait. À chaque fois, il aligne la même tactique. À chaque fois, les joueurs jouent de la même façon. Et à chaque fois, sauf incident, il aligne le même 11. Donc, j'avais même l'impression, au final, que sur cette deuxième partie de saison, il n'était pas trop question pour lui de faire de la tactique. C'était plutôt d'aligner les joueurs au poste qu'il souhaitait pour mettre en place une sorte de plan de jeu qu'il souhaitait mettre en place, comme l'ont dit les présidents, quoi. En gros, qu'il fallait mettre une identité de jeu pour cette équipe, et peu importe le résultat. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et puis, de toute manière, nous, on l'a bien vu que son effectif était pas adapté à son style de jeu. Donc, l'un dans l'autre, j'arrive même pas. Plus que ça, lui en vouloir de ne pas avoir trop changé de tactique, puisque de toute manière, c'est même pas dit qu'avec une autre tactique, ça aurait été différent. Néanmoins, ouais, sur ce coup-là, je suis quand même assez déçu. Moi, malgré tout, je m'attendais à avoir un entraîneur quand même qui puisse s'adapter à son effectif et faire en sorte quand même de face à certaines situations, de pouvoir s'adapter à l'adversaire et aussi aux situations de match. L'exemple de Verivel est très frappant, mais il y en aurait plein d'autres, notamment le match à Angers contre Angers, par exemple, ou d'autres situations de ce style-là. Le match au Havre, j'ai pas compris non plus l'attitude de l'équipe, qui pour le coup est restée derrière, n'a pas voulu attaquer plus que ça. Pour moi, il y a des incohérences dans son système. Néanmoins, j'aimerais revoir, mais avec des joueurs qu'il aura choisis et un effectif qu'il aura choisi. Maintenant, j'espère que je ne serai pas déçu également.
Voilà, là c'est bien, tu te positionnes par rapport à ça. Horneland, t'es pas contre le fait qu'il reste, mais avec un effectif adapté à sa vision du jeu. Oui, il faut cette cohérence-là, évidemment. Alors, je ne doute pas que, puisque vous êtes tous des lecteurs assidus de Poteau Carré, et puis même avant les potins de ces derniers jours où ça a été rappelé, peut-être même un potin d'aujourd'hui, je sais plus. Ça avait été souligné dans une vidéo quand il est arrivé, Eric Horneland, une vidéo de, comment il s'appelle, de Florent Tognutti, voilà, qui présentait Horneland et qui expliquait son parcours là, et avoir récupéré Brandbergen. On avait parlé dans l'émission d'ailleurs, récupéré Brandbergen qui était au fin fond du classement. Il est arrivé comme un sauveur, il n'a rien sauvé du tout, il est descendu. Mais l'année d'après, il a marché sur la D2 norvégienne littéralement. Il est remonté et puis il a fait deux fois de suite deuxième en Ligue 1. Alors c'est rigolo, enfin non, c'est pas rigolo de descendre, mais c'est un clin d'œil du destin. Pour l'instant, ça se passe pareil. Alors maintenant, on est preneur pour la suite, évidemment, hein. La question, c'est est-ce que, et d'ailleurs, Pat a abordé le sujet, c'était la question que je voulais poser à Dissident, est-ce que sa vision du jeu est adaptée à la Ligue 2 telle que tu la connais, Dissident? C'est-à-dire ce pressing très fort chez l'adversaire, hein. Il faut rappeler qu'en Europe, l'équipe de Brandbergen, dans ce domaine-là, était la deuxième statistiquement. Dans le pressing, dans la hauteur du pressing, dans le camp adverse. C'était deuxième, les premiers, c'était l'AEK Athènes. Mais donc, il a été manifestement choisi sur cet aspect des choses. Et d'ailleurs, il revendique que c'est un style qu'il est quasiment en devoir d'adopter parce que l'équipe doit ressembler à son public, à son stade, à son histoire. Et là, franchement, je ne peux pas lui donner tort. Le fait qu'on mette de l'énergie, tout ça, c'est mieux que tout le monde derrière, comme a fait Dall'Oglio à la fin. Bon, j'ai beaucoup parlé et du coup, Dissident, tu as peut-être oublié ma question. Ma question était, Est-ce que ce style de jeu te semble adapté à la Ligue 2, étant entendu, Pat l'a abordé, qu'il faut quand même qu'il ait des joueurs cohérents avec le système qu'il veut mettre en place?
Je suis très sceptique sur tous les points abordés, donc je vais essayer de faire rapidement. D'abord, je ne suis pas persuadé que le public stéphanois attende une équipe qui attaque tous azimuts et qui gagne les matchs 6-4 à chaque fois. Je suis pas sûr que ce soit vraiment exactement nos attentes. Je pense que le public stéphanois a adulé des entraîneurs comme Galtier ou Antonetti qui étaient pas forcément des fans absolus du foot champagne.
Alors,
Plutôt
excuse-moi, dissident, je précise juste un truc. Moi, ce n'était pas dans l'attaque à tout va, hein. C'était dans l'énergie qu'on met dans le pressing et à la récupération de la balle, c'est-à-dire beaucoup de courses, beaucoup d'énergie. Pas dans l'attaque à tout va.
Ok. Alors je reste aussi sceptique sur le fait que cette tactique Orneland, qui n'était pas vraiment adaptée à la Ligue 1, le soit aussi pour la Ligue 2. Je pense que pour être efficace avec le style de jeu que prône Orneland, il faut avoir des joueurs qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bons. Et en fait, j'avais la réflexion que c'est exactement la même pensée que j'avais à l'époque de Batless. Quand il avait ses tactiques un peu offensives avec ses latéraux très hauts là, et qu'on se prenait des vagues en contre à chaque fois. Et je me disais, bah, si tu veux être efficace avec ce type de schéma tactique, il faut avoir des joueurs qui sont très très bons, qui sont largement supérieurs à leur adversaire. Mais à ce moment-là, si tu as des joueurs qui sont largement supérieurs à leurs adversaires, bah finalement, peu importe la tactique que tu utilises, tu finiras toujours par gagner et monter. Donc en fait, je ne vois pas trop l'intérêt, franchement. Maintenant, comme disait Pat, il faut au moins lui laisser la chance d'avoir un effectif qu'il aura choisi. J'espère que la direction pourra donner à Orneland l'effectif qui lui sied, qui lui convient, et qu'on ait des résultats rapides. Parce que là, la lune de miel est terminée. Maintenant, on veut des actes, on veut des résultats rapides. Parce que sinon, ça risque de grogner assez vite. On a été très patient, je trouve, cette saison. Et je doute que cette patience puisse durer très longtemps en Ligue 2 si les premières semaines sont compliquées.
Ouais, juste pour préciser avant de donner la parole à Verivel, ça veut dire que tu es plutôt partisan Corneland-Dreist?
Moi, je serais partisan pour qu'un entraîneur qui a fait descendre la SSE avec une des saisons les plus pourries et à un niveau les plus affligeants qu'on ait vu quand même depuis longtemps, je serais plutôt partisan pour que l'entraîneur s'en aille. Mais je suis assez persuadé qu'il va rester parce que c'est la volonté de toute la direction. Donc
Mais
à partir
d'accord,
du moment.
je précisais ça parce qu'il me semblait que c'était ton sentiment au regard de ce que tu avais dit. Et ta dernière phrase pouvait laisser penser que. Mais d'accord, ok. C'est assez impitoyable ce que tu as dit. Et du coup, suite à ton intervention, on a tous envie qu'ils partent parce que tu as fait un bilan à la fois juste et terrible de la demi-saison qu'on a vécue avec Eric Orneland. Verivel, nous t'écoutons.
Oui, pour le chat, là, il y a énormément, énormément de messages. Je ne peux pas tout dire. Il y a un gros débat justement sur Orneland et ce qui se dégage, c'est que si Orneland reste, il va falloir faire un énorme mercato parce qu'il va falloir recruter des joueurs qui correspondent à son système. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on les ait. Donc, énorme mercato à venir si on veut garder Orneland pour les participants au chat qui sont très nombreux et qui sont très prolixes.
Et on les remercie encore une fois. C'est vraiment un grand plaisir pour nous que vous animiez le chat YouTube, que vous participiez à l'émission, que vous donniez votre avis. Vraiment, c'est à la fois du plaisir et c'est très enrichissant pour nous aussi, pour notre réflexion. Alors, bon, ce n'est pas une surprise. On n'a pas eu le temps de parler de tout ce dont on voulait parler, mais on arrive au terme de l'heure d'émission que nous avions fixée. Alors, bah, c'est très simple, hein. Eh bien, on va faire une deuxième émission rapidement pour compléter ce bilan de la saison. On finira avec Eric Orneland, même s'il vient de prendre un high kick assez violent de Titan et qu'il est déjà quasiment terminé, le pauvre. Mais on terminera sur son cas quand même. Et puis, on parlera, bon, bah, alors là, de la direction là, de nos Canadiens volants, là, qui, bon, et du hiatus qu'il y a entre le discours et les actes jusqu'à présent. Alors, Dissident disait la lune de miel est terminée. Je crois que ce sont les Greens qui ont mis une banderole, fini les audits, maintenant on veut des actes. Effectivement, ça serait bien que les actes soient en cohérence avec le discours le plus vite possible, sachant que la date de la reprise a déjà été fixée. Alors, j'ai oublié, je crois que c'est le 19 juin, mais c'est
C'est
même
bien
pas fin
ça.
juin. Ouais, c'est ça,
C'est le
hein.
19
Le
juin.
19 juin, donc rapide. Là aussi, Eric Orneland avait fait pareil avec Bran Bergen, une reprise après la descente, une reprise précoce, pas mal de matchs amicaux, et puis des débuts en fanfare en championnat. Bon, bah, on va voir. On a encore des choses à dire sur le sujet. Voilà, bah on vous remercie d'avoir suivi cette émission, que ce soit en direct ou en podcast. On a une pensée pour tous les Altigériens qui ont été obligés de pédaler pour avoir l'électricité nécessaire à la réception. Bravo à vous, belle abnégation. Et puis, on se retrouve très vite, hein. Suivez le forum. Suivez le site et on essaiera de communiquer et rapidement sur la date de la prochaine émission. Merci Dissident, merci Par Hasard, merci Verivel encore une fois pour la technique. Tu as été impeccable, c'était une première et on n'a pas eu de problème. Merci Pat et on vous dit à très bientôt. Et en Ligue 1 comme en Ligue 2 et même s'il fallait aller en R3.